Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama sur le 93.9 de Divergence. Nous sommes le mercredi 25 novembre, c'est une émission qui est diffusée de 13h30 à 14h30 avec une rediffusion le même jour de 18h à 19h. Et aujourd'hui nous sommes trois, nous sommes rentrés sans difficulté dans les studios. Bonjour Boris, bonjour Martin.
Bonjour, oui effectivement Vincent, c'était quand même quelque chose d'assez terrible hein, la semaine dernière de pouvoir faire une émission. Sur Divergence, donc bah oui, moi je viens cette,
tu es de retour.
Voilà, cette semaine pour vous parler principalement d'Alex de la Iglesia, donc un son que j'ai récupéré difficilement. Alors, en fait non, c'est plutôt la diffusion qui est difficile, mais je l'avais récupéré au Cinémed lors de la dernière édition, lors d'une conférence de presse, Alex de la Iglesia, un type jovial, marrant et passionnant. Et voilà, donc il y aura du son et tout ça, plein de trucs, des surprises.
Et donc ça fait plus de 3 semaines hein, qu'on promet cette interview, mais bon voilà, enfin pour des raisons de sommaire très compliquées, très très complets, on n'a pas pu la diffuser. Et toi, Martin ?
Oui, bah bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui, je vais beaucoup laisser la parole à Marc Bertrand que j'ai interviewé la semaine dernière. Et puis en toute
mais
fin d'émission.
Mais qui est Marc Bertrand ?
Ah, mais justement, vous allez le découvrir. Et donc voilà, en fin d'émission, je vous parlerai des événements qui sont nombreux et variés cette semaine.
Et moi, je vous parlerai de Rapt, le dernier film de Luca Bellevaux, qui est sorti la semaine dernière. Mais nous allons commencer avec Le Vilain, le dernier film de Albert Dupontel. Et pour l'entrée en matière, eh bien, rien de plus simple que de laisser les rênes à Laurent Bignolas. Laurent Bignolas, qui est le présentateur du 19-20, je crois qu'il s'appelle encore comme ça, ce journal de France 3, et qui recevait en duplex, c'était à la mi-octobre, je crois que c'était le 14 octobre.
Excellente interview.
Qui recevait en duplex donc Albert Dupontel. Tout le monde n'a pas entendu ce qui s'est dit lors de cette interview en direct. Donc, on vous rafraîchit la mémoire ou on vous fait écouter cette interview.
Albert Dupontel, bonsoir. Pardon pour commencer de ne pas avoir eu le temps de voir votre film, je le regrette, mais je peux vous dire que j'en ai déjà beaucoup entendu parler, et en bien. Alors comme ça, vous êtes vilain, vous nous avez fait des frayeurs, vous êtes arrivé tard, mais vous êtes vilain dans ce film, et est-ce que ce ne serait pas par hasard un tout petit peu, je dirais, un poil autobiographique ?
Non, pas du tout, non.
Bon, donc ce qui veut dire que vous êtes investi dans un rôle qui vous plaisait de créer, en fait, ce vilain. C'est... Quelle est l'origine de cette histoire que vous mettez à l'écran aujourd'hui ?
J'ai envie de faire un film avec Catherine Fraud.
D'accord. Alors, Paris réussit apparemment. Catherine Fraud, qui est, paraît-il, est une formidable partenaire pour vous. Comment est-ce que vous avez pu... pour être et le partenaire devant la caméra et en même temps le réalisateur, donc derrière la caméra, ça devait être un boulot de dingue, non ?
Non, en étant payé, tout simplement.
Pardon ?
En étant payé, tout simplement.
Ah, c'est ça qui est motivant ? Il n'y avait pas une envie artistique, de création
Non, moi je mérite mon salaire, ce qui n'est pas votre cas, si vous ne voyez pas les films.
Ben non, j'ai pas vu le film, je vous ai dit, parce que je vous en ai demandé pardon publiquement, tout simplement parce que j'ai un métier, justement, moi aussi,
j'en ai un,
Pompel,
ouais.
Et voilà, qui n'est pas
moi
de faire du
cinéma.
Moi aussi,
j'en ai un, je fais des films.
Et voilà,
mais
et
non,
j'arrive...
Mais c'est notre boulot de voir les films avant d'inviter les gens.
Très bien, oui.
Je vous remercie infiniment de votre accueil. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Ben bonne soirée à vous aussi, et merci de nous donner l'occasion de vous avoir salué très très rapidement. L'occasion, c'était en fait le festival du film de Beauvais. C'est amusant ce qui peut se passer sur un plateau de télévision. Et nous allons nous quitter là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Excusez-moi. Voilà, alors, puisque M. Dupontel a eu la gentillesse de nous laisser du temps pour nous intéresser à des vrais sujets, eh bien, je vais vous parler du monde qui est peut-être à l'envers, qui tourne peut-être pas très bien à l'endroit, et ce n'est pas plus mal comme ça.
Etc. On appelle ça meublé, hein, et puis dans le jargon, ce qu'a fait Dupontel, on appelle ça un très très mauvais client, et on appelle ça une ambiance de plomb, hein, voilà.
Non, c'est vrai que c'était assez marrant quoi, de le voir réagir de cette manière-là.
Eh oui. Il y a un tabou. Quand on ne voit pas un film, il vaut mieux pas le dire, en fait. Voilà. La brillante interview donc, menée par Laurent Bignolas me facilite la tâche pour la chronique du dernier film d'Albert Dupontel. Alors j'aurais pu penser que c'était autobiographique et Bignolas, avec sa première question, résout l'énigme. Le vilain qu'on voit dans le film, un braqueur de banque, fils unique, qui pour souffler un peu après une course-poursuite hilarante tellement ça pétarade dans tous les sens, se cache, c'est sa vieille mère, n'est pas Albert Dupontel, ça n'est pas lui, ça n'a rien à voir avec sa vie. Et ça rassure parce que ce vilain-là a toujours un regard menaçant et qu'il ne pense qu'à une chose, châtier son prochain, qu'il soit homme, femme ou animal, en l'occurrence une tortue bestiole qui a le désagrément de vivre très longtemps. La deuxième réponse à la question de Bignolas permet d'aller plus loin. L'origine du projet, eh bien, c'est faire un film avec Catherine Froh. Alors on quitte définitivement cette idée fantaisiste d'autobiographie. Catherine Froh joue sa pauvre mère au vilain. Oui, pauvre mère, parce qu'elle n'a jamais soupçonné chez son fils une telle méchanceté et qu'elle est victime d'un syndrome étrange, une malédiction. Elle passe à travers toutes les catastrophes. Elle n'arrive pas à mourir. Alors c'est pas qu'elle soit restée jeune, ça non, mais elle n'est jamais touchée physiquement par les choses. Un accident, elle l'évite. Un stratagème de grande ampleur de son vilain fils pour l'éliminer, elle y coupe. Alors à la grande surprise de son bougre de fiston qui voit ses talents de bourreau pervers mis à rude épreuve. Catherine Froh est une pièce maîtresse de ce vilain. Point d'amour débordant entre les deux. Ils s'observent, tentent de se connaître et se forcent à vivre ensemble. Alors passé les retrouvailles, 20 ans après leur séparation, il va se jouer entre ces deux-là une relation dévastatrice. La mère souhaiterait que son fils arrête d'être vilain, lui veut rester vilain à tout prix. Mais comme elle a cette malédiction de ne pas mourir parce que son fils est vilain, lui, il va devenir tout gentil. C'est une vraie stratégie de vilain, puisque sa mère, à mesure qu'il fait des actes de gentillesse, eh bien, elle a le souffle plus court et s'affaiblit. Alors, est-ce que les personnages sont figés, la mère gentille, le garçon vilain? Eh bien, pas tant que ça.
Infect.
C'est normal que ça soit amer.
Et pourquoi donc?
C'était pas du lait.
C'était quoi?
Du desktop. Alors en plus d'être méchant, t'es con.
Oui, il prenait le thé avec sa mère. Pour en revenir à l'interview de Bignolas, oui, Dupontel est un acteur et réalisateur et son talent est visible à l'écran. Alors le vilain, c'est de l'humour noir en pagaille, du burlesque, des scènes improbables proches de la BD, des stratagèmes pervers, y compris chez une tortue qui reconnaît son bourreau, des cascades, des chocs, des accidents, des personnages improbables qui ne bougent pas du quartier pavillonnaire de la maman du vilain. Un seul décor suffit à cette comédie noire qui est une vraie réussite. Alors qu'il peut jouer des personnages sérieux en étant payé, puisqu'il précise que il fait du cinéma pour être payé. Deux jours à tuer, notamment de Jean Becker, Irréversible de Gaspard Noé ou encore Le Paris de Clapiche. Il est incapable de faire autre chose dans ses films que de donner à voir un monde absurde où il a le premier rôle. Alors Le Vilain est son quatrième long métrage, dans la même lignée que les précédents, mis à part peut-être Le Créateur qui n'a pas fonctionné comme il le souhaitait. C'était sans doute là, Monsieur Bignolas, qu'il y avait une dose d'autobiographie. Alors c'était un film à part qui traitait de l'angoisse face à la feuille blanche. Mais quand on voit un Dupontel et ce vilain particulièrement, on sent que Dupontel a besoin de partir d'un élément scénaristique insolite, incongru, et de l'user jusqu'à la corde. Alors dans Bernie, c'est un orphelin qui est à la recherche de ses parents coûte que coûte, à base de coups de pelle. Dans Enfermé dehors, c'est un SDF qui trouve un uniforme de flic lui permettant de manger dans les cantines de la police, quitte à se prendre au jeu du justicier. Et dans Le Vilain, eh bien, c'est un homme méchant, tout simplement. Il n'y a ni bien ni mal, pas de morale, une psychologie zéro, juste un monde loufoque auquel il suffit d'acquiescer. Voilà, alors donc, inutile de vous dire que si vous êtes déjà des amateurs de Dupontel, eh bien, il faut courir aller voir ce film. Moi, je pense même que c'est un des plus réussis au niveau de... des cascades, du burlesque, de tout ce qui se passe. Il y a des courses-poursuites invraisemblables avec des balles qui sortent de partout, du bitume. Enfin, c'est de la surenchère, en fait. Voilà. Mais ça fonctionne très bien. Alors, il se trouve que moi, je l'ai vu il y a 15 jours donc au Multiplex Gaumont, que Dupontel était là avec Catherine Froh à la suite de la projection. Et il y a quelqu'un qui a posé cette question, mais est-ce que vous n'êtes pas vilain dans la vie aussi, monsieur Dupontel? Bon. Et Dupontel, qui était à peu près dans la même forme qu'on l'a entendu avec Bignolas, a dit a dit grosso modo, ah ben c'est bien de se déplacer pour entendre des questions pareilles, on peut passer à une autre. Voilà, voilà, il était dans une forme impeccable. On va se quitter avec ce film, donc il passe à peu près partout, il passe au Diago, il passe au...
En version originale, ça n'a pas d'intérêt de le préciser, je crois.
Après, c'est selon les écrans, si vous voulez, du popcorn ou pas. Donc il passe aussi au multiplex. Alors, on va se quitter en écoutant...
Cinérama, c'est déjà fini, quoi.
Non, on va se quitter avec le vilain. On va se quitter avec le vilain et Dupontel, surtout, en écoutant, en fait, une météo qu'il avait faite lors d'un Nulle part ailleurs. Alors, je sais pas, on n'est pas de la même génération, tout à fait. Moi, je l'avais connu en direct, ça m'avait profondément marqué. Je m'étais dit que ce type était vraiment drôle. Et donc, on écoute une météo très, très particulière qu'il a fait donc, un soir à la télévision. C'était un Nulle part ailleurs avec l'équipe de Gilles Das et Antoine de Caunes.
Alors, photo satellite, je vous prie. Une dépression centrée sur l'Islande nous enverra un front pluvieux sur le nord du pays. En clair, des véritables trombes d'eau de plusieurs milliers de mètres cubes vont s'abattre sur le pays, noyant les mines, les récoltes et des millions de gens ainsi que les nains. L'anticyclone des Açores protégera le reste du pays qui, selon toute probabilité, se désintéressera assez lâchement de la situation du nord. Alors demain matin, fainéant, ça, c'est demain matin ça ? D'accord. Alors demain matin pour les survivants. Ils pourront continuer à nager dans le nord, sauf à Lille, où un marché a été conclu entre le soleil et le conseil régional moyennant pot de vin, si les élus ne s'entretuent pas. Pour le reste, situation hésitante, confuse, voire variable, avec un vent d'ouest de 450 km/h sur la Manche, qui déclenchera un raz-de-marée, qui noiera les survivants du nord, venus se réfugier en Normandie. Demain après-midi, la situation va s'aggraver de façon totale et définitive. De la Bretagne au Rhône-Alpes, on pourra désormais parler de la création d'une nouvelle mer, dont le nom fera l'objet d'un concours dans la population du Sud. Tapez 3615, nom de la nouvelle mer. Des pays de Loire à la Corse, temps variable, mais qui devraient dégénérer avec disparition du soleil pendant une nuit entière. Le soleil fera apparition Manche et Picardie, ce qui sera l'occasion de sortir faire du bateau dans la mer nouvelle. Attention, selon toute vraisemblance, elle sera peuplée requins, orques, crocodiles, orcales. Température terrible dans le sud, qui sera vitrifiée en fin de journée.
Voilà, c'était Albert Dupontel, donc pour une météo très particulière. On sait bien que la météo ne ressemble pas à ça. Maintenant, à la télévision, voilà, c'était avant les années 90.
Mais à noter aussi que bah, Dupontel, effectivement, c'est un one-man show, enfin c'est un one-man showman à la base aussi, quoi, et qu'il a fait énormément de sketchs vraiment hilarants, voilà, avec un humour très noir.
Très particulier. Ouais, mais bah, ça, il y avait une question aussi de quelqu'un de l'assistance qui lui a dit, mais alors, est-ce que vous allez revenir tout seul en one-man show? Il a dit non, ça c'est des conneries de jeunesse, enfin, quand j'étais jeune, quoi.
Voilà. En tout cas, vous pouvez le retrouver hein, sur le salle DVD qui est en vente. Enfin, que vous pouvez trouver assez facilement, et il y a tous ces sketchs voilà, condensés sous forme d'anthologie presque, c'est assez, assez sympa.
On va parler d'un autre type plutôt drôle hein.
Oui, donc Alex de la Iglesia. Alors Alex de la Iglesia, pourquoi j'en parle? C'est vrai, la question pourrait se poser. Ben voilà, c'est parce qu'effectivement, lors du dernier Cinémen, il y avait une nuit en enfer qui lui était consacrée. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient raté la dizaine d'émissions de Cinérama qui précèdent. Mais voilà, donc c'est vraiment un réalisateur très intéressant. Et ben, je vais commencer cette chronique par eh bien, de quelques petits rappels sur sa filmographie, sur aussi sa vie. Donc il est né à Bilbao, notre ami, et il voulait dans son enfance être paléontologue. Donc Alex de la Iglesia se retrouve finalement diplômé en philosophie tout en dessinant et en publiant des bandes dessinées et en se forgeant une solide culture cinématographique dans l'horreur et le fantastique. Alors, dès ses premiers courts-métrages, il manifeste un goût pour les formes, les genres et les héros décalés que ses longs-métrages vont développer. C'est en devenant décorateur puis directeur artistique sur les plateaux de télévision et de cinéma qu'il finit par forcer les portes de la réalisation. Avec Action Mutante en 1992, puis Le Jour de la Bête en 1995, Iglesia propose des satires habillées de fantastique, une dizaine d'années avant que le renouveau du cinéma fantastique espagnol ne se matérialise définitivement. Iglesia donc revient sur l'aspect précurseur de son cinéma, on l'écoute tout de suite.
Y con respecto a cómo me siento, como viendo que hay una generación y que de alguna manera todos somos colegas, yo me siento un poco como previo a esta explosión de cine fantástico, porque cuando Cuando yo empecé a hacer cine fantástico estaba solo.
Donc par rapport à sa situation en ce qui concerne l'histoire de la génération du cinéma fantastique espagnol, il dit qu'il est arrivé un peu avant les autres quand il a commencé à faire du film fantastique. Il était le premier, il était tout seul. Donc il est un peu un précurseur.
Digamos que yo empecé como 10 años antes.
Ça fait à peu près 10 ans qu'il a... 10 años antes de los otros.
Exacto.
Oui. Donc il a commencé 10 ans avant les autres, à peu près.
Y... Pero bueno, también hubo antes gente que lo hizo y también eran... francotiradores, ¿no?
Bueno, il y a eu auparavant d'autres personnes qui ont fait ce genre de choses qui étaient, dit-il, des francs-tireurs.
Entonces, hombre, me siento muy orgulloso de alguna manera haber provocado esto, haber abierto las puertas a la posibilidad de que se hiciera fantástico en España.
Donc il est très orgueilleux, très fier d'avoir pu ouvrir les portes au cinéma espagnol fantastique en Espagne, que des choses se soient faites après.
Igual, la diferencia es eso que hoy hablando con los periodistas pensaba en la diferencia, ¿no? Y la pena es que de alguna manera ellos están abocados, ellos están empujados a hacer ese tipo de género y a mí me gusta salirme del género de vez en cuando. O sea, no me gusta hacer exclusivamente género, ¿no?
Donc la différence, il pense peut-être de lui et un peu les plus jeunes, c'est que les autres sont impulsés à faire ce genre de cinéma, de film, et lui, il aime bien changer de genre, il n'aime pas être toujours dans les mêmes choses.
Voilà, donc dans les jeunes dont il parle, on pense évidemment finalement à tous les réalisateurs dont j'ai pu parler lors du topo que j'avais fait sur ce renouveau du cinéma fantastique, à savoir des gens comme Paco Plaza, Balaguero, voilà, ce genre de réalisateurs. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'époque où débute le cinéma d'Iglesia, le genre de la movida, donc pour faire simple, le cinéma d'Almodovar, bat son plein. Et c'est justement lui... qui produit le film d'Iglesia Action Mutante, une comédie donc satirico-gore qui lance sa carrière et impose d'emblée un goût prononcé pour l'humour noir. Donc là, on écoute Yves Montmeilleur, qui donc participait à la table ronde auquel j'ai assisté et d'où provient ce son, qui parle justement de ce film Action Mutante. On l'écoute de suite.
Comme l'a dit Alex, son tout premier film, tout premier long-métrage, Action Mutante, a bien évidemment inauguré de tout ce nouveau courant de fantastique espagnol. Moi, je vois un peu Action Mutante comme une sorte de bombe qui explose en plein final de la movida. Je ne sais pas si vous connaissez la movida, le courant d'après le franquisme qui a généré le cinéma d'Almodovar. On n'en a jamais parlé ensemble, mais il est vrai que si vous connaissez un petit peu le film... Où un groupe de terroristes commence à violenter une certaine bourgeoisie arty, cultivée, avec des attentats, des prises d'otages, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à un moment donné, c'est une fonction de dire « Bon, la movida, maintenant, c'est fini, on doit passer à autre chose. » Et il l'a fait d'une manière assez violente et très parodique. Mais Alex, c'est pour moi une sorte d'ogre. Dans le sens, c'est un grand boulémique, il vous l'a dit. Il se nourrit, il fait des films comme de la cuisine, c'est un basque, donc ils ont un apport à la cuisine. Donc il mélange plein de choses, de ces cultures du comics, la culture classique de Sophocle, de Black Edwards, de la série B, etc. Et à l'intérieur de tout ça, c'est comme une espèce de bombe à retardement qui va à un moment donné éclater. Dans tous ces films, c'est comme ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va éclater, est-ce que ça va être une vraie bombe ou est-ce que ça va être juste un pétard. Et tous ces films sont conçus comme ça. Mais effectivement, ce qui fait la force de ces films, c'est un très grand amour du genre, du cinéma de genre, et comme il le dit, qui va décliner suivant tous ces films. Mais c'est important qu'il soit là, parce que c'est comme il l'a dit lui-même, il était le premier, vraiment le premier, avant tout le monde, à ouvrir la brèche sur un cinéma fantastique qui avait disparu d'Espagne.
Y era exactamente lo que ha dicho él. Era no sé si de una manera inconsciente o consciente, pero claramente yo creo que Acción Mutante está precisamente luchando contra eso, contra una manera de ver el cine, con una manera de ver la vida. Quiero decir, cuando hablamos de los pijos, de los niños de papá y tal, pues no solamente es eso, sino también es con un tipo de cultura, ¿no? Un tipo de como la cultura seria.
Oui, donc effectivement, dans ce film, il y a une envie de d'arrêter avec un type de cinéma, d'arrêter aussi avec un type de un mouvement, notamment, il dit quand il parle des enfants de papa, c'est d'arrêter avec un cinéma un peu sérieux, avec un mouvement sérieux, de couper avec ça.
Voilà, alors on va enchaîner directement avec un autre extrait de cette conférence qui donne encore la parole à Alex de la Iglesia et qui revient sur cette relation qu'il entretenait avec Almodovar. C'est assez intéressant d'apprendre cela.
En Acción Mutante se escenifica effectivement la muerte de un determinado tipo de cine.
Oui, donc effectivement, dans Action Mutante, c'est la mort d'un certain type de mouvement de cinéma aussi.
Sí, y además teniendo en cuenta de que precisamente es Pedro Almodóvar quien me produce la película.
Et c'est justement Almodóvar qui produit son film.
Entonces, lo maravilloso de ese momento es que yo era muy consciente de eso. O sea, sí. Yo era muy consciente, o sea, sobre todo el momento en el que hay un momento concreto en la película en la que los personajes, o sea, el grupo de retrasados mentales, el grupo de freaks, irrumpe como si irrumpiera en una fiesta de Almodóvar, ¿no?
Oui, donc effectivement, c'est un moment très important, il dit, où il y a le groupe des attardés, des retardés, attardés mentaux, des freaks, donc des monstres en anglais, et qui à un moment arrêtent la fête, et c'est comme s'ils arrêtaient aussi la movida.
Sí, es como si entraran en una fiesta de Almodóvar con todos sus personajes, y además era verdad.
C'est comme, oui, lui il dit qu'il était conscient de ça, c'est comme s'ils arrivent dans une fête d'Almodóvar et qu'ils coupent tout, qu'ils cassent tout.
Porque conscientemente llamé a actores de Pedro para hacer esa secuencia.
Et de manière consciente, il a demandé à des acteurs de Pedro Almodóvar de jouer cette scène.
Entonces estaba Bibi Anderson, estaba todos sus amigos.
C'était tous ses amis, Bibi Anderson et d'autres, c'était tous les amis d'Almodóvar.
Entonces, en ese momento yo quería rodar, o sea, veía clarísimo que estaba rodando una secuencia en la que mis personajes querían matar a los personajes de Pedro.
Donc, à ce moment-là, il était tout à fait conscient de ce qu'il voulait. Il voulait dire que ces personnages tuaient les personnages de Pedro.
Y ese día fue. Pedro vino dos días al rodaje, y ese día vino al rodaje.
Donc, Pedro Almodóvar est venu deux jours pendant le tournage, et il est venu juste ce jour-là.
Y entonces recuerdo que Pedro me decía esto es como una caricatura de esto es como una caricatura de mis personajes, ¿no?
Y Pedro lui disait ça ressemble à une caricature de mes personnages, ¿no?
Y ella decía no, Pedro, no, es un homenaje, ¿no?
Donc Alex répondait non, c'est un hommage, ce n'est pas une caricature.
Voilà, donc c'est effectivement particulièrement rigolo parce que effectivement le cinéma d'Almodóvar, tout le monde le connaît. C'est un type de cinéma assez suave qui revient sur des problèmes sociaux, mais voilà avec
délirant
un
délirant aussi. Hein.
Comment?
Délirant. Enfin,
oui, relativement si, oui. Ouais. Mais le truc de d'Iglesias, c'est que Action Mutante, c'est un film complètement délirant, un film bis à souhait où voilà, il y a une bande de monstres, enfin il le dit lui-même, de freaks qui arrivent et qui font une espèce de révolution. Ils sont tous à moitié handicapés et à un moment ils débarquent dans la soirée où voilà, c'est une espèce de réception avec son clinquant et puis ils arrivent et ils massacrent tout, quoi. Et c'est les personnages d'Almodóvar qui sont dans la réception. Donc c'est vrai que c'est un clin d'œil assez rigolo quand on sait que justement Almodóvar produisait le film, quoi. Donc après son deuxième film, Le jour de la bête en 95, Iglesias enfonce encore le clou dans la veine satiro-fantastique. La critique et le public, dont près d'1,5 million de spectateurs en Espagne, sont unanimes et le metteur en scène se forge vite une renommée internationale. Donc le cinéma d'Alex de la Iglesia, fils d'une movida passée au moule buñuelien du surréalisme et animé par la loufoquerie, la cruauté et la démesure, met en pratique avec une virtuosité qui ignore les règles du bon goût, la théorie du bordel ambiant. Il est d'ailleurs plaisant de constater que le cinéma d'Iglesias ne se limite pas qu'au fantastique, mais se plaît au contraire à embrasser continuellement de nouveaux genres, faisant de sa filmographie une œuvre éclectique qui semble illustrer l'esprit du monsieur, ainsi que son goût immodéré du renouveau et de l'expérimentation. Il s'attable ainsi à la comédie de mœurs, genre auquel il sera identifié par la suite, avec Mes chers voisins en 2000 et rencontre à nouveau le succès. Cela permettra au réalisateur de donner naissance à des projets plus personnels, tels le One Movie Perdita Durango ou 800 balles en 2004, hommage à l'âge d'or des westerns. En 2005, le réalisateur retrouve son genre de prédilection, la comédie noire, avec le crime farpé, dont j'avais passé un petit extrait la dernière fois. Et alors lui, voilà, le crime farpé, c'est aussi un film à voir, effectivement un peu dans la même veine que Mes chers voisins, mettant en scène voilà, des personnages tirés de la société, mais avec une moralité à dessous.
Oui, c'est une comédie satirique, hein, avec un type qui veut absolument être chef... chef de magasin qui
Galerie Lafayette en gros voilà, et c'est assez rigolo aussi quoi, avec voilà cet humour noir. Puis après bien sûr il y a un retournement de situation que je vous laisse découvrir et qui est vraiment intéressant. Donc il faut vraiment voir le crime farpé, pour, c'est un des films à voir d'Iglesias, c'est très clair. Donc l'année suivante, ben, il revient donc en 2005 hein, il revient en fantastique pur et dur avec le téléfilm d'épouvante La Chambre du Fils. Et donc La Chambre du Fils, c'était aussi un film à voir dans le sens où voilà, c'est vraiment un hommage. On y reviendra tout à l'heure lors d'un extrait où il rend hommage un peu au réalisateur Serrador, parce que Serrador avait mis en place en fait une série de petits films d'épouvante qui s'intitulait Les Histoires pour ne pas dormir. Et ben justement La Chambre du Fils fait un peu écho à cette série en étant elle aussi en faisant partie d'une autre série auquel a contribué donc Iglesias avec La Chambre du Fils, mais donc d'autres réalisateurs ont aussi contribué, qui s'appellent les pellicules, enfin les films pour ne pas dormir, et qui sont voilà des films assez angoissants. Donc après une espèce de session sur ce qu'on disait là, c'est-à-dire une espèce de satire sociale plus ou moins burlesque et un peu trash, il revient voilà à son genre de prédilection originel, on va dire, avec La Chambre du Fils. Et alors, ce qui est assez surprenant finalement, c'est de découvrir le film d'après, donc le dernier film en date, Crime à Oxford. Donc là, il était question pour la première fois de grands acteurs internationaux dans le film. Il y a Elijah Wood, il y a John Hurt, voilà, qui jouait dedans. Donc c'était une espèce d'intrigue policière.
Un peu à la Agatha Christie en voilà, fait. On peut plus tirer par les cheveux, disons, mais oui, voilà, une sorte d'enquête à l'anglaise. Ouais. Où on perd toute la chaleur méditerranéenne et où on passe dans des décors, même dans une ambiance qui est beaucoup plus glaciale, beaucoup plus sombre.
Ouais. Et c'est d'ailleurs, c'était pas vraiment raté. Je pense que c'était plus ou moins un film de commande. Il en a un peu parlé, il me semble que c'était le cas. Mais c'est vraiment un film qui est vraiment en dessous de ce qu'il a pu faire avant. Et puis, oui, qui est un peu hybride, quoi.
Oui, c'est beaucoup moins fou, beaucoup moins absurde. Ça joue plus du tout sur des codes. Ça appartient au genre du whodunit, où on cherche pendant tout le film qui est l'assassin avec des énigmes, etc. Mais il n'y a pas, cette folie, cette truculence qu'il y a dans ses autres films, même dans les comédies sociales comme Le Crime Farpé ou Mes chers voisins, où il n'y a pas cet aspect fantastique, mais il y a quand même une sorte d'absurdité ambiante qui fait qu'on a l'impression d'être dans un autre monde. Là, on est clairement à Oxford, dans le milieu étudiant, et ça, ça en fait un film plus classique que le reste.
Ouais. À noter par contre dans ce film Crime Oxford la présence d'une actrice assez pulpeuse, et d'ailleurs ça c'est aussi un truc d'Iglesias, à savoir que dans le jour de la bête pareil, puis même de toute manière dans à peu près tous ces films il y a toujours cette présence féminine assez pulpeuse. Et moi je me souviens clairement de
cette scène de dégustation de spaghettis qui est peut-être la scène la plus iglésienne de Crime à Oxford. Ouais.
Bon, les garçons, on enchaîne.
Donc sinon, il est question de revenir aussi sur les personnages en fait des films d'Iglesias. Donc on va parler par exemple des pirates intersidéraux dans la comédie satire gore d'Action Mutante, le curé, le disquaire heavy metal et la star de la voyance dans la comédie fantastique Le Jour de la Bête, l'héros vieilli qui continue à jouer les cow-boys après que les décors du western ont été démolis dans 800 balles, ou encore l'assassin contraint d'épouser une femme qui le fait chanter dans la farce grand guignolesque du crime farpé. Donc les personnages d'Iglesias incarnent tous à leur manière la figure de l'anti-héros. Donc ce choix bien particulier correspond à une sorte de philosophie que détient le réalisateur à propos de la souffrance, du ridicule et du lien qu'entretiennent ces thèmes avec le rire. Concernant les origines de ce penchant, il y aurait d'ailleurs à chercher du côté de la figure du héros bancal que l'on retrouve tel Don Quichotte dans la culture espagnole. On écoute eh bien, le témoignage de Montmeilleur à propos de la figure de l'anti-héros récurrente dans l'œuvre d'Iglesias.
Et puis surtout, effectivement, je pense aussi Don Quichotte, c'est, bon, comme tout le monde le sait, c'est aussi c'est l'anti-héros, c'est la critique du héros chevaleresque. Et c'est vrai que quand on regarde les films d'Alex de la Iglesia, tous ces personnages, ce sont des anti-héros. C'est l'anti-modèle hollywoodien. C'est des gens qui ont parfois des convictions au début, mais qu'après, qui les perdent, qui sont veulent, qui sont pleutres, qui ont peur de tout, mais qui finalement arrivent à devenir attachants, malgré tout, tout leur mauvais pédigré, j'ose dire. Ça, c'est effectivement, on peut dire aussi, une marque, quelque part, très espagnole liée à Don Quichotte.
Et voilà, donc pour finir ce topo sur Alex de la Iglesia, eh bien, je vais vous parler un petit peu, par le biais encore d'un extrait, de l'influence d'Iglesia, justement. Donc il y en a plusieurs, d'ailleurs pas forcément espagnols, mais il parlait d'Hitchcock notamment. Mais c'est surtout Serrador, donc un réalisateur qui a principalement fait deux films très marquants, donc Les Révoltés de l'an 2000 et puis La Résidence. Des films donc voilà, films d'angoisse et c'est de ça qu'il nous parle Iglesias.
Oui, donc le Serrador, il dit que Serrador c'est quelque chose de particulier, c'est un exemple pour eux. Donc ils ont fait une série télévisée ensemble à plusieurs réalisateurs. Lui, il a fait un épisode.
Chicho Ibáñez Serrador est probablement un des meilleurs directeurs qu'il y a eu en Espagne. Lo que pasa es que en un moment déterminé, il fait télévision et ne vuelve à faire más cine.
Serrador, à un moment, est sûrement un des meilleurs directeurs, réalisateurs d'Espagne, mais à un moment, il s'est mis à faire de la télévision, il n'est pas revenu au cinéma. Il est resté.
Il tiene dos grandes películas, una se llama La Residencia.
Sí. Il a deux très grands films qui s'appellent La Résidence.
Que está muy bien. O sea, si lo hubieran hecho en Hollywood, hubiera sido un clásico.
Ça aurait été un classique, il pense, si ça avait été filmé à Hollywood.
Y luego tiene otra absolutamente esencial que tenéis que ver, que es quién puede matar a un niño.
Et la deuxième que vous devez absolument voir, ça s'appelle, alors je ne sais pas comment elle est traduite en français.
En français, elle est traduite par Les Révoltés de l'an 2000.
Voilà, ce qui n'a rien à voir.
Et là, alors, en espagnol, ça veut dire qui veut tuer un enfant.
Voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour
un chico, un niño. ¿Quién quiere matar a un niño?
Qui veut tuer un enfant? Qui peut tuer un enfant? En espagnol, hein, mais c'est, donc c'est traduit en français autrement.
Terrorífica.
C'est terrifiant.
Es terrible e inquietante de cojones.
Inquietant, terriblement inquietant.
Por eso que es que Chicho es otra cosa. Además es el personaje de Chicho Ibáñez Serrador es maravilloso porque es un tipo que rechaza precisamente eso, la seriedad de la gente que, fíjate, alrededor suyo pues estaba toda la escuela de Martín Patiño, Saura, en fin, todo el cine este precisamente pretendidamente pretendidamente profundo. Y él hace un cine de género en el momento más incómodo. O sea, en ese sentido, pues tiene mucho, mucho que ver conmigo. Y entonces, pues lejos de importarle, se ríe de eso y tal, y hace bromas y sale en la televisión con pipa hablando de películas de terror y le da todo igual. Y entonces, pues para los que lo veíamos desde fuera, era el dios.
Et c'est qui est Serrador?
Chicho Ibáñez Serrador.
Ouais, Chicho Ibáñez Serrador, il revient donc à lui. Il dit que c'est quelqu'un de tout à fait différent et qu'il a fait en télévision, il a ri de beaucoup de choses. Et pour eux, c'était presque une idole, quoi. C'était quelqu'un, ils se sentent très proches de lui.
Mais il faut peut-être préciser aussi que Serrador, bon, il a fait très peu de films, mais toute leur génération. Comme il l'a dit, Serrador, après avoir fait de longs métrages, il est passé à la télévision. Il a fait cette série Histoire à ne pas dormir la nuit, Historias para no dormir. Et que tous, ils les ont vus petits. Il faut savoir que c'est l'équivalent de la série télévisée d'Hitchcock, vous savez, les histoires extraordinaires, mais c'est beaucoup plus fort. Les images sont des images expressionnistes, très prenantes. Donc ils ont tous été hantés par cette série. Toute cette génération, ils les ont vus. En plus, en pleine époque franquiste, qui est sortie du franquisme, il y avait peu de ce type. C'était assez osé. Je crois qu'ils ont tous été marqués. Par cette série télévision.
L'orphelinat, ça se passe dans ce lieu-là. Et ça raconte, il y a la réminiscence. Mais la fille qui apparaît au début de la série de télévision dans Rec, de quoi elle parle? Elle parle de l'émission pendant que vous dormez.
Voilà, donc on finit sur un petit fond angoissant tiré du film La Chambre du Fils. Donc, que dire en conclusion? Alex de la Iglesia, c'est vraiment donc, un réalisateur qui a une filmographie très particulière, très variée. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait en termes de fantastique, mais ce qu'on retiendra aussi, c'est certains de ses films qui partent sur une autre voie. Il y avait donc notamment le One Movie, Perdita Durango. Alors, le Perdita Durango, en fait, il a été fait à la base en 97. Je ne crois pas qu'il soit sorti à cette époque-là, mais un peu plus tard, parce qu'il a eu des problèmes pour le distribuer, voilà. Mais sinon, oui, ce film est à voir absolument. Alors déjà parce que, eh bien, c'est la première de oula, son nom m'échappe, l'acteur.
Fais une description.
No Country for All Men, par exemple.
Javier Bardem.
Voilà, Javier Bardem. Donc voilà, il apparaît déjà, il est impressionnant. Et puis d'autre part, parce que voilà, c'est un one movie tiré d'un roman de Barry Gifford qu'on avait pu, enfin qui avait déjà été adapté au cinéma par Lynch dans Sailor et Lula. Donc c'est un film à voir absolument. Je crois par contre qu'il est assez difficile à se procurer. Mais voilà, si j'ai quelque chose à vous conseiller, si vous connaissez pas du tout Iglesia, c'est d'une part de vous emparer du crime farpé, de découvrir Perdita Durango, et puis après de vous intéresser à ce qu'il a fait de l'ordre du fantastique. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Boris pour ces 3 semaines de préparation pour nous fournir un petit bilan sur Alex de la Iglesia, qui était donc l'invité du cinéma. C'était la grosse pointure, enfin, qui est venue avec Théo Angelopoulos, mais qui, ouais, lui, est dans un autre cinéma qui n'a rien à voir avec celui de la Iglesia. Et d'ailleurs, il avait la pêche, ce de la Iglesia.
Il était incroyable.
Il était avec sa petite famille.
J'ai pas mis d'extrait de ses blagues, mais il n'arrêtait pas. Il créait des idées de scénarios en direct pour faire réagir le public, pour qu'il y participe. Enfin, c'était très rigolo, quoi.
On va passer maintenant à toute autre chose, puisque c'est le dernier film de Lucas Bellevaux, Rapt, un film aussi rude que son titre. C'est l'histoire de Stanislas Graff, la quarantaine, grand patron français. Alors un homme qui est le président d'une entreprise qui, bien sûr, est coté au CAC 40 et a aussi toute l'attention du pouvoir. Graff côtoie le gouvernement et peut en prendre congé prématurément, prétextant un autre rendez-vous important sans qu'on prenne son départ de la table des convives pour une impolitesse. Sa vie, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Mais un jour comme un autre, il est enlevé et là, forcément, sa vie bascule. De maître de puissant, il devient esclave à la merci de ravisseurs intraitables disposés à le libérer contre 50 millions d'euros, ce qui représente une petite somme qu'il n'a pas forcément. Et ça peut compliquer les négociations.
Mauvaise nouvelle, président. Vous ne l'avez pas payé. J'ai bien l'impression que personne n'a envie de te revoir vivant.
C'est impossible.
Comment t'expliques qu'il nous propose 1 million alors qu'on sait que tu pèses 20 milliards?
Mais j'ai pas 20 milliards.
Ne prends pas pour des cons, c'est dans tous les journaux!
Ils mélangent tout, c'est le chiffre d'affaires du groupe, c'est pas mon argent!
Essaye pas de nous embrouiller, on n'est pas les impôts, nous! Tu nous auras pas comme ça!
Le groupe ne m'appartient pas, je suis l'actionnaire principal, d'accord? Mais j'ai pas 20 milliards!
Ça t'a pas empêché de perdre 1,5 million en Union au casino!
Mais j'ai jamais perdu 1,5 million!
Arrête! C'est dans le journal, c'est là! Sous les yeux! Mets ton masque et sors de là!
Mène-toi, bordel!
Tu veux quoi exactement? Tu veux qu'on te coupe une main? Qu'on t'arrache un œil? C'est ça que tu veux? Parce que c'est ça qu'on va faire! On commence par quoi?
Je vous jure, je suis pas aussi riche.
Jure pas! Jure pas! T'entends? Regarde. Et lève pas les yeux. Tu sais ce qui t'arrivera si jamais tu nous vois. Alors, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça?
Il mélange tout.
Comme tu veux. Écris. Écris-leur que c'est une bande de dégueulasse. Écris que c'est ta dernière lettre. On discute plus. Maintenant, c'est le pognon. Où et quand on leur dira. Et ce sera un morceau pour chaque retard. Un morceau de toi, président. Écris et sois convaincant.
Et voilà, et le son du cinéma à la radio permet d'entendre ces chaînes et puis forcément la violence des propos. Alors qu'y a-t-il dans ce rap de Lucas Bellevaux dont le précédent film, Le Magistral, la raison du plus faible, nous avait emmené du côté des sans-dessous, des éclopés, des chômeurs, prêts à tout pour faire un coup, histoire de ne pas mourir de résignation. Et bien ici, l'histoire du rap sert moins à nous montrer la captivité que les alentours, soit l'enquête de police, les pressions sur la famille, grâce à une femme, 2 filles et une mère, les pressions du conseil d'administration de sa société et ses lieutenants qui par le retour. Il y a l'influence de l'image et des médias qu'on a entendu ici dans cette scène et au final l'après. Quand tout est fini, qu'est-ce qu'on devient quand on a tout perdu?
Monsieur, je suis le commissaire Paoli, je dirige la police judiciaire. Heureux de vous voir vivant.
Avant toute chose, nous allons devoir vous interroger le plus précisément possible. Il faut qu'on agisse vite, si on veut retrouver ceux qui nous ont fait subir ça.
Je sais pas. J'ai jamais vu leur visage.
On va passer dans votre bureau.
Vous voulez quelque chose ?
Un café ?
Je voudrais voir mon chien.
Mettez la campagne.
On va le faire venir.
Ce rapt aurait pu concerner eh bien, un autre patron fortuné, hein, c'est parce qu'il manque les têtes qui brassent des millions, mais c'est tombé sur lui, un type dont le grand public ne savait pas grand-chose, qui inspirait juste le respect, mais on découvre assez vite qu'il menait une double, voire une triple vie. La presse économique ou People se délègue de tous ses écarts avec la bonne conduite, car un capitaine d'industrie doit tenir son rang. Alors si bien qu'au retour, il n'est non seulement plus le même homme pour les autres, mais aussi pour lui-même. Lucas Bellevaux embrasse ses deux états avec une certaine rudesse, mais aussi du rythme, en nous faisant partager quatre univers. La séquestration et la relation que Graff a avec les différents truands, l'enquête policière et son lot de bévues, d'approximations et de réussites tout de même, le monde économico-politique et enfin la vie familiale éclatée. La description de ce monde de la haute bourgeoisie est sans doute bien sentie et servie par des interprétation au poil, grâce à un casting qui ne fait pas apparaître de tête connue, si ce n'est Graff interprété par Yvan Attal, sa femme par Anne Consigny et sa mère par Françoise Fabian. Le reste, les flics, les gestionnaires, les actionnaires, les truands, eh bien c'est du sur-mesure. On pourra peut-être trouver le rythme lent, un film traité à l'américaine aurait favorisé un aspect du scénario, soit la captivité, soit la sortie de captivité, soit l'enquête policière. Là, les segments se réunissent dans une seule œuvre qui a le mérite de ne pas nous égarer. Il s'agit en fait d'un homme, d'un début, d'un Rapt et puis d'une fin. Voilà, donc Rapt est projeté au Diagonale, au Gaumont Multiplex. Seulement deux salles de cinéma pour l'instant. J'en ai terminé et cette fois-ci nous passons au monde de la forêt, je crois.
Oui, c'est ça. Alors vendredi dernier étaient organisées plusieurs rencontres à la FNAC de Montpellier dans le cadre du festival d'animation de Bayargues, Anima Sud. Alors le réalisateur Bill Plimpton, par exemple, venait promouvoir la sortie en DVD de son dernier film en date, Des idiots et des anges. Et puis Marc Bertrand, qui était un autre invité d'honneur du festival, eh bien lui, il venait présenter sa sélection de courts-métrages d'animation qui étaient projetés au festival de Bayargues. Alors moi, j'ai eu le privilège d'interviewer ces deux pointures du cinéma, bon, avec un succès mitigé, hein, si mon entretien avec Marc Bertrand s'est déroulé sans trop de problèmes pendant que Plimpton signait des cartes postales à la chaîne dans son coin. L'interview réalisée avec le réalisateur des Mutants de l'espace fut un peu plus agitée. Alors je vous prépare quand même pour la semaine prochaine un petit montage de cet échange et de la masterclass que Plimpton a donnée le lendemain matin. Mais bon, pour aujourd'hui, je vais vous laisser en compagnie de Marc Bertrand, donc un des piliers de l'ONF. Alors je lui laisse le soin de se présenter et de vous parler de l'ONF. Et on se retrouve dans quelques minutes pour un débriefing. Pour la plupart des Français, l'ONF, c'est bien sûr l'Office National des Forêts. Mais il existe un autre ONF, hein, c'est l'Office National du Film du Canada. Et bon, aujourd'hui, nous sommes avec Marc Bertrand, qui travaille au sein de cette structure très particulière depuis 1998. Alors Marc Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que l'Office National du Film du Canada et en quoi cette structure est, n'ayons pas peur des mots, mais presque unique au monde?
L'Office National du Film du Canada, c'est un producteur et un distributeur public qui a comme mandat de faire des films. Aujourd'hui, on ne fait que des films d'animation et des films documentaires. L'ONF a été créé en 1939 par un homme qui s'appelait John Grierson et c'était un petit peu pour faire promouvoir l'effort de guerre. Mais très rapidement, l'organisme s'est éloigné un petit peu de la propagande et est devenu vraiment un organisme pour représenter un petit peu ce qu'était le Canada à travers des films documentaires. On a aussi fait pendant plusieurs années des films de fiction, avec des grands cinéastes comme Gilles Carle, Denis Arcand. Et la plupart des cinéastes canadiens, à un moment donné, sont passés par l'Office national du film. Donc aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on a une collection de films d'à peu près 13 000 films qui sont diffusés un peu partout dans le monde. Et moi, je travaille surtout en animation et là aussi, grâce à un homme qui s'appelait Norman McLaren, on a construit une très grande collection de films avec des techniques très, très diversifiées en animation.
Alors vous, vous travaillez plus précisément au sein du studio Animation et Jeunesse en tant que producteur de films. Alors en quoi consiste votre travail dans ce studio ?
Alors moi, je reçois des projets. J'analyse les projets et je dois faire des choix. Avec mes collègues, on fait des choix pour faire une programmation et ensuite de ça, on commence le travail avec les cinéastes qui sont choisis. On a des fois des concours, des fois c'est sur invitation, des fois c'est pour des thématiques précises, des fois c'est pour des publics, comme vous avez dit tantôt, pour la jeunesse. Mais l'animation, chez nous, ça ne veut pas nécessairement dire jeunesse, ça ne veut pas nécessairement dire non plus cartoon. Parce que très tôt, le studio a développé la volonté c'est autour de l'esprit de Norman McLaren, d'avoir plusieurs techniques qui seraient rattachées au contenu. Donc, mon rôle à moi, c'est de développer des trames narratives avec les cinéastes, puis après ça... Puis des fois aussi, il n'y en a pas de trame narrative parce que c'est des films expérimentaux. Puis après ça, de travailler sur quelle technique on va employer. Et chez nous, souvent, les cinéastes sont seuls. On aime dire qu'on fait du cinéma d'auteur en animation. Et les cinéastes vont être aussi les artisans de leurs films. Donc, mon travail à moi, c'est de les accompagner pendant qu'ils vont créer le film. Bien souvent, faire des dessins ou faire de l'animation directement sous la caméra ou sur la pellicule ou en 3D ou sur l'écran d'épingle, comme faisait Jacques Drouin. Et ensuite de ça, ben vient la post-production où là, les autres artisans arrivent dans le décor et il y a le montage sonore, les musiciens. Lorsqu'un cinéaste travaille un an ou deux ou trois ans sur un film d'animation, il a fait chacun des dessins ou chacun des cadres. Lorsque les autres collaborateurs arrivent, il y a toujours un petit élément un peu de panique. Puis mon travail à moi, c'est de rassurer et de faire en sorte que tous les ingrédients sont là pour bien terminer le film. Puis aussi de se souvenir, c'est mon travail aussi de rappeler au cinéaste quelle était son intention de départ. Parce que ça peut devenir très solitaire de travailler sur un film et on peut des fois prendre des voies de contournement parce que la difficulté est grande. Puis mon travail à moi, c'est de se rappeler c'était quoi l'essence du film au début.
Vous parliez à l'instant des différentes techniques utilisées dans l'ONF, parce que l'ONF, c'est 70 ans de production de films, donc 13 000 films, des milliers de récompenses, et c'est aussi 70 ans d'innovation technologique. Entre autres, on peut citer l'explosion du cinéma direct à la fin des années 50, ou encore l'IMAX qui a été développé aussi en partenariat ou même directement à l'ONF. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette politique d'innovation de l'ONF ? Et moi, je pense une anecdote que j'ai lue sur Norman McLaren, qui, dans le registre de l'innovation, qui dessinait lui-même ses pistes sonores optiques sur la pellicule.
Dans le cas de Norman McLaren, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai fait le coffret Norman McLaren, donc j'ai eu la chance de fouiller dans tous les archives de Norman, dans une voûte, et de remettre à niveau tous les œuvres, les tests, les bandes sonores. Et effectivement, Norman McLaren a fait plus qu'un film, mais son plus connu s'appelle Synchromie, où on voit à l'image exactement ce qui est dessiné sur la bande sonore ou sur la bande optique. Et ça fait un très beau film où on voit le son. Norman McLaren était très préoccupé par ça. Mais tout le long de sa carrière, dès qu'il est arrivé, sur l'invitation de John Grierson, Norman McLaren a été invité à créer un studio d'animation à l'ONF. Et dès le début, Norman a dit « Je n'ai pas les studios, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir créer de gros studios d'animation, alors on va travailler avec des techniques le plus simple possible, mais qu'on va travailler beaucoup plus sur les contenus et sur des techniques différentes. » Alors très tôt, il a commencé à gratter sur la pellicule, à dessiner sur la pellicule, et a toujours trouvé des stratégies d'animation qui étaient relativement simples. Lorsqu'il a fait son chef-d'œuvre, ou du moins le film qui lui était le plus cher, qui s'appelle Voisin, c'était la pixilation. Et il était un des premiers à faire de la pixilation, donc du mouvement image par image de gros objets, ou dans son cas à lui, d'humains. Et c'est le film qui a gagné un Oscar, étrangement, qui a gagné un Oscar pour meilleur documentaire. Et donc, Norman cherchait toujours des techniques les plus économiques possibles, mais qui restaient en lien avec le contenu, avec les messages qu'il voulait livrer. Et encore aujourd'hui, c'est un leitmotiv chez nous, c'est-à-dire que les cinéastes arrivent avec maintenant des nouveaux outils, qui sont des outils ordinateurs, mais des fois leurs programmes ou des pinceaux numériques, mais aussi des outils traditionnels. Dernièrement, on a fait du travail encore sur la pellicule. Je suis encore en train de tourner un film sous la caméra avec Martine Chartrand, qui est directement sous une table lumineuse où elle dessine avec ses doigts directement sous la caméra. L'écran d'épingle, qui est un écran avec 250 000 épingles qu'on repousse, des épingles noires qu'on repousse pour faire apparaître une trame blanche. C'est complètement fou parce que c'est de faire une sculpture pour chacune des images, puis ensuite de la détruire, puis de recommencer. Et ça, 24 fois pour une seconde, ou souvent un petit peu en animation triche, on met que 12 cadres, donc on double les cadres, mais quand même. Et encore aujourd'hui, on croit que de travailler de cette façon-là, où les auteurs sont au centre de leur œuvre, fait des œuvres un petit peu plus fortes, des œuvres qui sont percutantes, mais on fait très peu ou pratiquement pas de longs métrages. On est toujours avec de courts films d'animation qui, selon les auteurs ou les cinéastes, donnent un sens à la vie ou du moins qui donnent un sens à notre monde ou au monde qui nous entoure. Juste pour reprendre, oui, vous avez raison, IMAX a été développé à l'ONF, tout comme Softimage avec Daniel Langlois. Daniel travaillait et a fait un film à l'ONF, et un jour, il est arrivé et a dit aux gens de l'ONF, si vous vouliez, j'aurais besoin de 10 personnes pendant 3 ans, je pourrais vous faire un logiciel. Et l'ONF lui a dit, c'est un très beau plan, mais ici, on fait des films, et prends ce que tu as appris, et va le développer dans l'industrie privée. On a fait ça avec IMAX aussi. Une fois que ça a été développé, on l'a redonné à l'industrie privée. Et il y a eu plusieurs innovations comme ça. En ce moment, on travaille en stéréoscopie. Encore là, c'est IMAX qui est revenu nous demander est-ce que vous pourriez travailler avec un outil qu'on a développé qui s'appelle le Sandy, qui est finalement une espèce de souris. Mais une souris 3D, une souris d'ordinateur, mais au lieu d'être sur un plan de 2D, on travaille en 3D directement sur un écran géant. Et ça fait 10 ans qu'on travaille avec cette nouvelle technique-là, puis on a plusieurs films en 3D qui sortent. Et c'est pas de la 3D commerciale, c'est de la 3D, nous on appelle ça de la stéréoscopie, mais de la stéréoscopie qui est artistique. Donc oui, on a une industrie cinématographique privée au Canada. Mais ce n'est pas à nous à faire ce qu'ils font. Il faut absolument continuer à se démarquer et toujours se demander, le projet qu'on me propose, est-ce qu'il pourrait se faire à l'extérieur de l'ONF? Et lorsqu'on répond à cette question-là par l'affirmative, ce n'est pas pour nous. Donc, il faut faire des choses que personne d'autre font. Ça ne veut pas dire qu'on réussit à chaque fois, mais c'est ce qu'on tente de faire.
Bah, justement, est-ce que vous pensez que des structures comme l'ONF, qui est presque du service public du cinéma, mais bon, en France, on a le CNC, mais ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres ONF et que ça pourrait se répandre un peu à travers le monde? Est-ce qu'il y a des projets même qui se sont lancés dans cette idée
À ma connaissance, il y en a déjà eu. Les pays de l'Est avaient de grands studios publics, des grands studios étatisés qui fonctionnaient un peu comme ça. Puis leur cinéma, surtout le cinéma d'animation dans les pays de l'Est, ont fonctionné très, très bien. Mais en ce moment, il semble qu'il n'y ait pas d'autres modèles qui ressemblent à l'ONF. Et je vous dirais que même au Canada, les pressions sont très grandes de l'industrie de récupérer les sous qui sont, même si c'est un organisme qui ne coûte pas si cher que ça, mais de faire un peu. Parce qu'au Canada, on a un organisme qui ressemble un petit peu au CNC qui s'appelle Téléfilm Canada, qui aide l'industrie privée à produire des films. Le reste, c'est une impression, puis c'est une impression très personnelle. Je crois que la culture, l'art, ça doit être supporté par les gouvernements, par l'État. Et c'est là qu'on peut retrouver une certaine liberté. C'est là que les cinéastes, les artistes peuvent tenter, risquer de se tromper. Et c'est lorsqu'on cherche justement la marge, là où on peut se tromper, qu'on trouve de nouvelles choses. Lorsqu'on joue trop, de façon trop sécuritaire, trop safe, comme on dit en anglais, ben on fait un peu ce que tout le monde fait. Il y a des exceptions. On est ici en présence de Bill Plimpton, qui, lui, travaille avec le modèle américain, c'est-à-dire aucune subvention. Et Bill, que j'admire son œuvre, doit constamment se vendre et vendre ses films. Il le fait très bien, il réussit très bien. Mais c'est pas tous les artistes qui peuvent faire ça. Donc, je crois sincèrement qu'un Office national du film, si ça existait ailleurs, sûrement que c'est l'art, la culture et surtout les artistes qui en bénéficieraient.
Ben merci beaucoup, Marc Bertrand.
Ça fait plaisir, merci à vous.
Voilà, donc vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'ONF, donc pas celui avec les sapins et les petits osios, mais l'Office national du film du Canada, et également sur ce que pourrait être un véritable service public dédié au cinéma. Alors je m'excuse de la qualité de l'enregistrement, ça avait été fait à la FNAC, au Forum FNAC, donc c'est un magasin avec des gens, des clients qui passent, etc. Alors juste pour conclure cette interview, l'ONF possède un excellent site internet tout en français sur lequel sont disponibles plusieurs centaines de films produits par la structure. Vous pourrez par exemple découvrir certains des films dont Marc Bertrand nous a parlé, comme ceux de Norman McLaren. Vous pouvez voir Voisin par exemple en pixilation, mais aussi d'autres petites merveilles dont certaines étaient projetées d'ailleurs dans le cadre d'Anima Sud, comme le très bon Isabelle au bois dormant de Claude Coutier ou l'incroyable Le paysagiste de Jacques Drouin, donc qui était réalisé sur, avec cet écran d'épingle dont parlait Marc Bertrand. Donc l'adresse du site c'est www.onf.ca. Voilà.
Et ben on va enchaîner pour le coup avec les événements.
Très bien.
On arrive à la fin de l'émission.
Voilà. Donc, alors cette semaine, beaucoup d'événements. Aujourd'hui, donc, s'ouvre une rétrospective de l'œuvre cinématographique de Raymond Depardon, qui se poursuivra jusqu'à fin décembre, en partenariat avec Languedoc-Roussillon Cinéma et La Région. Donc, le Diago propose 4 films du réalisateur qui s'enchaîneront pendant 4 semaines. Cette semaine, c'est le film 1974, Une partie de campagne, que vous pourrez redécouvrir en salle, avec une séance spéciale présentée par des enseignants-chercheurs de Paul Valéry mardi à 20h30. Donc, d'autres événements sont organisés un peu partout en Languedoc-Roussillon depuis début novembre. Et jusqu'à fin décembre, entre autres à Alès, Perpignan et Montpellier. Donc vous trouvez plus d'infos sur le site de Languedoc-Roussillon Cinéma. Sinon, ce soir à 20h, vous avez au Gaumont Multiplex une avant-première de Loup de Nicolas Vanier. Donc Nicolas Vanier, c'est le réalisateur du film Le Dernier Trappeur qui était sorti en 2004. Et bon, le réalisateur reste dans la neige pour nous emmener vivre une aventure dépaysante en Sibérie orientale. Donc des beaux paysages, des belles images de rigueur pour ce premier film de fiction de l'ancien explorateur du pôle Nord et des confins arctiques politique. Alors ce soir à 20h25, vous pourrez également aller assister au Diago à une séance spéciale du dernier documentaire de Michael Moore, documentaire qui sort aujourd'hui d'ailleurs, Capitalism Love Story. Donc cette séance sera suivie d'un débat avec l'association ATTAC, c'est ce soir à 20h25 au Diago. Jeudi, vous allez avoir besoin de votre pouvoir d'ubiquité ou d'une machine à remonter le temps, on en trouve des pas chers à Monoprix. Vous pouvez aller assister à deux événements qui sont proposés par le Diago. Alors dans l'ordre chronologique, à 20h25, directement au Diagonal, vous avez la projection du documentaire « Vers un crash alimentaire » dans le cadre du festival Alimentaire 2009, qui sera suivi d'un débat avec le collectif local du même nom. Donc un film qui dresse le bilan de la crise alimentaire mondiale qui va aller en s'amplifiant dans les années à venir. Toujours jeudi à 21h, mais cette fois-ci au Centre Rabelais, vous pourrez aller vous dégourdir les oreilles et suivre la tournée en France d'une bande de musiciens israéliens et palestiniens réunis pour véhiculer un message de paix grâce à leur musique. Alors le film s'intitule « D'une seule voix » et la projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur Xavier de Lausanne. Ensuite, vendredi 27 à 20h, le Gaumont Multiplex organise une avant-première du film « Esther, Orphan » en anglais de Jaume Colesera. Un thriller plutôt pas trop mal reçu par la critique internationale. Ça, c'est vendredi à 20h au Gaumont Multiplex. Samedi à 20h25, encore au Diagonal, une séance spéciale de Cowboy Angels, suivie d'un débat avec la réalisatrice. Si vous n'avez rien, mais alors rien à faire dimanche, en fin de matinée, vous pourrez emmener vos mioches à l'avant-première du dernier Luc Besson, Arthur et la vengeance de Maltazar. C'est au Royal ou au Gaumont Comédie ou au Gaumont Multiplex. C'est respectivement à 10h30, à 11h et à 11h, et ce sera sans doute encore plus mauvais que le premier volet des aventures d'Arthur. Et enfin, lundi 30 à 20h25, avant-première du film « Qu'un seul tienne et les autres suivront » de Léa Fener, un premier film choral qui a reçu le prix du meilleur premier film français au dernier festival de Deauville. Voilà pour les événements de cette semaine.
Eh bien, c'est bien complet, en tout cas. Voilà, ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, vous serez Martin, Boris et Thierry, visiblement.
Tout à fait.
Et moi, je ne serai pas là puisque je pars du côté de Nantes pour le Festival des Trois Continents, un festival plutôt bien fichu qui s'occupe du cinéma des trois continents les plus pauvres en cinéma, soit, alors pas forcément l'Asie, mais un peu quand même, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Voilà, et bien sinon, que dire de plus ? Allez au cinéma, vous en avez l'occasion vu les événements qui ont lieu cette semaine.
À la semaine prochaine.
Ah, on remercie Ellie à la technique. Un grand merci. Et puis, à la fin de ce générique, vous pourrez entendre encore du Dupontel. Cette fois-ci, c'est un extrait de Enfermé dehors.
Si par exemple, tu aides la police, hein, tu fais un coup de main à la police. Si par exemple, il y a une dame qui te demande de l'aider dans la rue.
Si cette dame, par exemple, elle te dit qu'on lui a pris son bébé.
Oh, salopard.
Qu'est-ce que tu fais?
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, ben moi je lui démette la gueule. Je supporte pas ceux qui s'en prennent à des petits-enfants qui n'ont rien demandé à personne pour naître. C'est des gens, il faut les décapiter vivants, les lapider à coups de hache.
Cinérama.
Et j'en fais du pâté.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.